L'écho du parquet. L'écho du parquet. Musique et danse traditionnelle. L'émission qui met le feu au plancher.
Saison 3.
La, c'est pas les Scottish, c'est ça, c'est une mazurka, ça. Oui.
Et bonsoir.
Bonsoir, c'est l'écho du parquet, la 43e.
Déjà la 43e, et nous sommes dans la 3e saison de cette émission que vous pouvez entendre si vous habitez en Drôme Ardèche sur fréquence 7 92 FM, sur Radio Méga 99.2 FM et sur Radio Saint-Ferréol 94.2 FM, et peut-être que vous nous écoutez aussi sur notre audioblog Arte quand vous voulez, où vous voulez, quelque part dans cet univers.
Et aujourd'hui, on parlera de dulcimer, cet instrument, et d'épinette des Vosges, ces deux instruments que vous n'avez peut-être jamais croisés. C'est l'occasion, hein.
Voilà.
C'est aujourd'hui, et voilà, en fait, vous verrez tout à l'heure, c'est des instruments intéressants pour leur historicité dans le monde du trad.
Ouais, ça a été à la mode, ce fut à la mode, ce l'est moins, et l'écho du parquet est là pour changer la mode.
Ouais, voilà, pour lancer une mode.
Voilà, relancer la mode, c'est cyclique. Ah, voici un instrumentarium qui intrigue, qui séduit d'emblée, avec un violoncelle joué par Delphine Borda, une cornemuse 20 pouces jouée par Jean-Jacques Smith et deux vielles à roues.
J'allais dire, on aurait dit qu'il y avait peut-être une vielle à roues.
Ouais,
aussi.
Il y en a même deux. Une alto jouée par Magali Borda et une soprano par Jean-Claude Laporte. Avec autant de graves et de bourdons, quand on regarde ne serait-ce que l'instrumentarium, on s'attend à une musique assez planante avec des boucles et on n'a pas tort. Pour autant, le Rivage Quartet que nous venons d'entendre, car c'est de lui dont il s'agit, ne va pas explorer des esthétiques noisy et grinçantes, ce qu'on pourrait faire hein, avec deux vielles à roues.
C'était assez mélodieux.
Ouais. Il propose une musique qui sonne très trad, mais avec une forme d'élégance tranquille qui est bien rendue par le titre de l'album « Au fil de l'eau ». Voilà, c'était donc un extrait du premier album de Rivage Quartet, s'appelle « Au fil de l'eau ». Alors, fort logiquement, avec cet instrumentarium, on est clairement du côté de la musique du Centre-France, et notamment du Berry. Mais pour autant, comme ça grince très peu du côté des arrangements, élaboré par la violoncelliste Delphine Borda, le disque est sans doute tout à fait écoutable par ceux qui ne jurent que par le néo-trad et l'European folk, à qui il sera beaucoup pardonné car nous sommes magnanimes. Et quant à ceux qui ne jurent que par le bon vieux trad à l'ancienne, il devrait...
À qui il sera pardonné
tout autant. Ils devraient aussi retrouver leur petit, parce que même si tout le disque repose sur des compositions du cornemuseux Jean-Jacques Smith, celles-ci sont souvent, et même si pas toujours, à la manière d'eux, et respectent vraiment les codes de la musique de ce territoire, avec des morceaux qui sont construits aussi pour la danse. Ce groupe existe depuis 2017, et il est né de la rencontre entre Jean-Jacques Smith et le trio Coup de Quatre. Le trio Coup de Quatre, parce qu'en fait, ils avaient commencé à quatre en 1999, avant de passer à trois, qui, eux, avaient déjà sorti il y a 20 ans un disque de musique du Berry dans une célèbre collection Musique du Monde chez Universal. Je ne sais pas si vous voyez, vous avez tous le même design un petit peu. Le disque du Rivage Quartet est, semble-t-il, sorti cette année. Je ne sais pas quel mois, mais c'était en 2025. Et l'extrait qu'on vous proposait avait un côté manifeste identitaire de tout ce qu'ils veulent proposer, puisqu'il ouvre l'album, c'est déjà un signe, et il s'intitule lui aussi Rivage Quartet. Voilà. La suite.
Donc on va continuer avec le sujet du jour qui est consacré à l'épinette des Vosges et au dulcimer. On vous laisse en compagnie de nos interlocuteurs privilégiés.
Rencontrés au son continu, si je me souviens
bien.
Pas tous. Non, il y en avait d'autres aussi. D'accord.
Bon, je vais peut-être vous présenter tout de suite à nos téléspectateurs. Jean-Loup Bally, vous êtes quoi? Musicien, un conteur, vous n'êtes pas luthier?
Je suis pas luthier.
Voilà.
Oui, je suis musicien. Conteur, chanteur, je chante avec des copains, je joue avec des copains dans un groupe qui s'appelle Mélusine.
Comment vous êtes-vous intéressé à l'épinette des Vosges?
On s'est d'abord intéressé à l'époque du... On a été un petit peu parmi les gens qui ont promu cette espèce de vogue qu'on a appelée la vogue folk. Et alors, on s'est intéressé au répertoire traditionnel, au répertoire des chansons... On n'ose plus dire folklorique parce que le sens est devenu un peu péjoratif, mais enfin, c'est vrai que c'est ça. Et puis, à force d'aimer ces chansons-là, parce qu'on en aimait la forme, parce qu'on en aimait la musique, on s'est intéressé aux instruments propres à jouer ces chansons, propres à jouer cette musique-là. Puis on s'est intéressé à des tas d'instruments, via la roue, accordéon, diatonique, le violon, pratique populaire, et bien sûr, l'épinette des Vosges, parce qu'il y a eu une mode dans le temps qui était au dulcimer américain, et on trouvait cocasse de jouer du dulcimer américain, alors qu'il y avait un instrument de la même famille antérieure, vraisemblablement, qu'on pouvait trouver à deux pas de chez soi, et on s'est intéressé à l'épinette des Vosges.
Florian Fener, luthier depuis 2016, et donc rapport à la musique, mon père qui m'a appris l'épinette des Vosges à l'âge de 6 ans, et donc après construction d'une première épinette de façon amateur vers 15 ans, études dans le commerce, après également en parallèle le conservatoire à Bourges, en vielle, donc j'ai appris la vielle à 16 ans. Et puis après mon BTS, j'ai essayé de lancer une activité en lutherie, et puis voilà, épinette, dulcimer et vielle à roue.
Moi, c'est Daniel Hafner, le père. Donc, moi, je suis arrivé à la lutherie en tant qu'amateur. J'ai construit, j'ai fait un stage d'épinette à Gérardmer dans les Vosges dans les années 78. Et donc, j'ai appris à jouer de l'épinette. Et puis après, j'ai essayé de fabriquer une épinette des Vosges. Et puis donc, j'ai transmis mes connaissances à Florian pour qu'il se mette à fabriquer une épinette tout seul. Sinon, je suis retraité de la fonction publique et j'ai 70 ans maintenant. Et donc, je l'aide dans la lutherie.
L'épinette, c'est un instrument qui fait partie de la famille des sitars à bourdon. Donc on a deux ou trois chanterelles sur lesquelles on va faire la mélodie, et après on a les bourdons qui accompagnent la mélodie. Et donc le dulcimer, c'est presque pareil que l'épinette, sauf qu'il y a quatre cordes qui sont en dessous d'une touche, et donc on peut faire des notes en dessous de cette touche. Il n'y a pas vraiment de bourdon à proprement parler. Et donc le dulcimer, un peu le cousin américanisé de l'épinette.
Et comment on les joue ?
Eh ben, on joue sur les cuisses, et donc on va utiliser ce qu'on appelle un médiator, comme pour la guitare. Donc on peut jouer au doigt au niveau de la touche. Et on peut jouer également avec un petit morceau de bois pour l'épinette qui s'appelle un auteur, où on va venir jouer sur la partie diatonique, pour éviter de jouer au doigt, pour être un peu plus fluide dans les mouvements.
Alors écoutez, je crois que la première chose à faire, c'est d'écouter ce que vous allez nous dire sur cette épinette. Et puis après, on verra.
Là, je vais vous raconter la vraie histoire. Hein.
D'accord.
L'origine, voilà. Il était une fois, dans un joli et merveilleux petit vallon, situé aux confins des Vosges et de la Haute-Saône, il était une fois un bonhomme qui était bien content d'habiter ce vallon, parce que ce vallon était tellement merveilleux qu'il n'en avait aucun effort à faire pour y trouver à manger, pour y trouver à boire, pour y trouver à discuter, pour y trouver à jouer, pour y trouver à s'amuser avec les amis. Bonjour, il a décidé de faire une fête. Et quelle fête ! Il avait décidé de montrer aux gens toutes les merveilles culinaires qu'il avait rencontrées. Et il avait commencé par faire une énorme fondue, une merveilleuse fondue, avec du vin qui coulait à flot partout. Et tout le monde est accouru à cette fête, et tout le monde a mangé comme des porcs, et a bu comme des cochons, et s'est diverti comme des gorets. Et bref, la soirée est passée et a été abominable. Et lorsqu'elle s'est terminée, et que tout le monde est parti, ma foi, notre bonhomme est parti se coucher. Il a dormi quelques heures, et puis le lendemain, il s'est réveillé, il s'est levé. Il a eu des signes de pressentiment qui lui allaient lui dire qu'il allait avoir une journée merveilleuse et étonnante. Pensez, il y avait les cheveux qui bougeaient sur sa tête. Il avait des sifflets qui passaient dans son crâne. Il avait du sable qui bruissait dans ses yeux. Il avait une espèce de chape bizarre autour de sa langue. Enfin, il s'est quand même levé, il a fait son petit déjeuner tranquillement, et puis il a cherché un peu de pain pour mettre du beurre dessus. Alors il est allé à la panière, et puis alors son état était tel que lorsqu'il a essayé d'ouvrir la panière, il s'est trompé de côté. Et au lieu de l'ouvrir du côté qui s'ouvre, il a ouvert du mauvais côté. Alors, et puis en essayant de le regarder, en plus, il a vu qu'il y avait des espèces de fils dessus. Oh, c'était extraordinaire. C'était des fils de gruyère qui restaient de la fête, naturellement. Il a essayé de les enlever, et puis il n'arrivait pas à les enlever. Et chaque fois qu'il tirait dessus, au lieu de les casser, ça faisait cette espèce de musique. Ah, il a été étonné. Il a quand même essayé à nouveau d'ouvrir cette panière. Il n'a pas pu, ma foi. Il a réfléchi en restant, en regardant cette panière. Puis au bout d'un temps, il a eu une idée. Et alors il s'est levé, il s'est précipité à la basse-cour, il a cherché la plus belle poule, ou bien le plus beau coq, je sais pas, qu'il y avait dedans, il a sauté dessus, il l'a attrapé, il l'a étranglé, il a pris une patte, il a extirpé un pilon, et il a extirpé une plume. Et alors il est revenu, et il s'est mis devant la panière, et puis il a fait glisser le pilon de la poule sur le fil, et avec la plume, il a gratté.
Il avait inventé l'épinette des Vosges, voyez-vous, mais il avait fait avec cette affaire-là une musique tellement belle qu'il a essayé toutes les positions possibles pour en jouer, et il a trouvé ça tellement beau, tellement merveilleux, que un peu la fête et un peu l'émotion, il est mort d'une crise cardiaque qu'il a brisée là. Et le lendemain matin, lorsque tous ses amis, lorsque tous ses voisins sont venus dans la maison, ils l'ont vu gisant au milieu des cadavres de bouteilles et des cadavres de chaudrons. Et comme ils ont tout nettoyé et qu'ils ont tout mis au feu pour bien purifier, ils ont mis également la panière parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. De sorte qu'il a fallu attendre bien longtemps encore avant que l'épinette des Vosges soit réellement inventée.
Si je peux revenir sur l'historique de l'épinette, donc la première description, c'est Michael Pretorius qui a décrit tous les instruments qui se trouvaient en Europe en 1619, et donc il a décrit l'épinette des Vosges qui était appelée Scheitholz, bûche de bois. Et donc l'épinette est arrivée en France, au Val d'Ajol principalement. Dans les Vosges, Franche-Comté aussi. Donc pendant la guerre de Cent Ans, les soldats allemands ont apporté des instruments, des épinettes, des Scheitholz, qui étaient dans le fourreau de leur selle. Et donc, quand ils ont été chassés du Val d'Ajol et des environs, ils ont oublié des épinettes, des Scheitholz. Et donc, ce sont les habitants qui ont récupéré cet instrument. Et au fil du temps, l'instrument a évolué. On a mis des chanterelles supplémentaires, des bourdons. Et puis les formes ont évolué aussi.
Et l'histoire du dulcimer ?
Alors le dulcimer, c'est la Scheitholz qui a été emmenée par les colons allemands vers 1650, on va dire, pendant la colonisation des États-Unis. Et donc ils ont amené cet instrument-là, ils en ont joué. Il y avait une colonie irlandaise, des colons irlandais et écossais qui, au cours des échanges socioculturels, ont récupéré cet instrument et l'ont modifié. Et donc eux, ils ont pas fait une touche spécifique aux chanterelles, ils ont fait une touche avec tous les bourdons, donc ce qui permet de faire des accords. Et puis ils jouaient du traditionnel irlandais, mais après ils ont évolué vers le country, le blues avec le dulcimer. Hein. Mais c'est deux mondes différents. Hein.
D'accord.
Mais au niveau de la musicalité, c'est deux mondes différents. Ouais, c'est pas pareil, c'est pas la même culture.
Est-ce que vous pourriez nous parler de la résurrection, entre guillemets, de ces instruments dans les années 70 ? Là, vous avez parlé de l'origine historique. Si j'ai bien compris, il y a eu un moment donné avec le revival folk où ces instruments qui étaient en voie de disparition ou plus utilisés ont été ressuscités. C'est bien ça ?
C'est toi qui en parlera mieux, c'est toi qui l'as vécu.
Pendant les années du mouvement folk, c'était un instrument qui a été mis qui est revenu d'actualité grâce à Jean-François Duterte. Oui, Jean-François Duterte qui était un épinettiste. Donc il a créé beaucoup de compositions contemporaines. Et puis il a été chercher, il a collecté beaucoup de morceaux dans les Vosges, des anciens morceaux. Et alors à cette époque-là, c'était un instrument qui était facile à jouer et puis donc qui était très populaire. Et puis
Comment t'expliques que ça a pris
Parce que c'était
un... dans plein de groupes.
Parce que c'était un instrument facile à fabriquer, on apprend à en jouer très rapidement, et puis c'était populaire, hein, ça, le son plaisait. Maintenant, y a beaucoup moins de joueurs, parce qu'il y a d'autres instruments émergents qui arrivent, hein, la vielle à roue, l'accordéon, le violon, tout ça. Donc c'est pour ça que c'est un instrument qui est en train de s'éteindre petit à petit, comme le dulcimer.
Enfin, il y a encore des pratiquants aux États-Unis.
Ouais,
Mais le foyer en France, c'est assez beaucoup plus petit que celui qu'il y a aux États-Unis. Le dulcimer, il y a vraiment une grosse culture du dulcimer aux États-Unis.
Oui, aux États-Unis, il y a environ 1 million de joueurs de dulcimer. Hein.
Pour des pratiques de musique folk.
Oui, c'est ça, oui. Et donc, pour Noël, on vous offre un dulcimer. Hein. Mmh. C'est une coutume, pratiquement. Hein. Okay. Ou un pistolet, ou une arme à feu.
Vous pouvez nous
jouer un petit morceau d'un air donc traditionnel peut-être?
Oui, là j'ai une petite épinette du Val d'Ajol,
oui.
Authentique, qui a été fabriquée dans les années 1860-70.
Oui.
Et je vais jouer un morceau qu'on a appris de la première personne qu'on a vu jouer, Madame Laure Gravier, en 1970, et qui était la dernière quasiment joueuse de tradition, l'une des dernières, disons, du Val d'Ajol. Et on a appris, moi j'ai vraiment appris à jouer en la voyant ce jour-là, parce qu'on ne l'a vue qu'une seule fois. Elle est morte quelques mois plus tard. Alors j'ai joué un petit air qu'elle nous a joué, une petite polka.
Ce matin, j'ai acheté l'Escargot Folk de 1978, un numéro spécial d'Ulcimer. Donc je l'ai lu ce matin avant de venir faire les interviews. Et l'intro du dossier sur l'Ulcimer dit, donc en 78, il n'y a pratiquement plus aucun groupe de musique traditionnelle en France aujourd'hui qui n'utilise pas le Dulcimer dans son son. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette quasi-disparition, alors que ça a été très populaire à la fin des années 70. Qu'est-ce qui s'est passé pour basculer, qui fait que moi, je ne connais aucun groupe aujourd'hui qui utilise du dulcimer ou de l'épinette?
Moi, j'ai deux hypothèses là-dessus. Alors, je pense qu'il y en a une, c'est par rapport au répertoire qui n'évolue peut-être pas comme a pu évoluer le répertoire de la vielle, comme exemple. Et je pense également que le répertoire du dulcimer n'a peut-être pas autant évolué. Et je pense également qu'au niveau de la transmission, il n'y a pas de structure pour apprendre du dulcimer, ou alors c'est de façon très localisée avec des profs particuliers ou peut-être des associations, mais il n'y a pas de structure pour accueillir comme d'autres instruments, et donc le fait qu'il n'y ait pas de transmission derrière fait qu'un instrument peut battre de l'aile, quoi.
L'épinette des Vosges, il y avait des stages tous les ans d'organiser à Gérardmer. Ça durait pendant une dizaine d'années à la Maison de la Culture. Et c'était Jean-François Duterte et Jean Loubali, des musiciens du groupe Mélusine, qui animaient ces stages. Moi, j'y ai participé. Et c'est pour ça que j'ai ramené ça dans la région centre. Et donc, j'ai appris les techniques de jeu. Puis ça m'a incité aussi à construire une épinette. Hein.
Est-ce qu'après, il y a eu un petit mouvement épinette dans le centre, là-bas?
Ben oui, on a créé un groupe qui s'appelait le Rang des Épinettes. On a joué pendant combien? 2 ans? On a joué 2-3 ans, oui. Donc on avait un répertoire basé sur Mélusine et puis sur du baroque. On faisait pas mal de baroque à l'épinette.
Également, il y avait une association qui était en Indre-et-Loire où tu donnais quand même quelques cours.
Ouais.
Où il y a quand même des gens qui possèdent une épinette en Indre-et-Loire. Il y a quand même quelques joueurs, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de structure où ces gens-là peuvent se réunir ou apprendre. Donc là, ici, on va avoir les chanterelles, qui sont des cordes aiguës. C'est des cordes de guitare, en fait, qu'on peut acheter à l'unité. Et en haut, on va avoir les bourdons, qui sont également 3 cordes de 2 guitares, qui sont plus graves et qui vont venir accompagner. Donc en fait, on a les touches en bas où c'est la partie diatonique, et en fait, en haut, on a tous les demi-tons. Alors que celle du bas, ça va être... Et donc c'est là où on va utiliser le noteur pour la partie diatonique, pour aller plus vite. Voilà. Alors qu'au doigt, on n'irait pas aussi vite. Ou alors avec beaucoup d'entraînement. Et donc là, on va vous jouer un morceau baroque, un rigaudon.
Ce matin, sur le stand, il y avait des personnes qui demandaient où est-ce qu'on pouvait apprendre l'épinette. Ben, j'y ai plus rien, il n'existe plus aucune organisation ni structure qui met en place des stages d'épinette. Puis la demande est tellement faible que organiser un stage, c'est un coût. Et donc, faut couvrir les frais. Donc, peu de gens s'engagent à organiser un stage. Hein.
Oui, et donc, en tant que luthier, quand quelqu'un qui connaît pas, qui veut bien en acheter, mais enfin, il a besoin de formation.
Ouais.
Est-ce que, paradoxalement, ça serait pas la facilité de l'instrument qui est la cause de son déclin? Dans le sens où, puisque l'instrument est facile, on a eu tendance à penser que tout le monde peut se débrouiller pour le prendre comme ça, et il n'y a pas eu ces structures d'apprentissage, justement parce que c'est facile.
Ouais. Peut-être, je vais dire également, peut-être au niveau de la technique, ça a assez peu évolué. Quand on regarde dans les Vosges, on est toujours resté au noteur, au médiateur. Il n'y en a pas tellement de joueurs qui s'est aventuré sur, on va dire, la partie chromatique, à essayer de développer des choses. Il y avait Jean-François Duterte qui avait essayé des choses différentes. Mais effectivement, s'il n'y a pas de renouveau dans le style, ça donne pas. Faut réussir à s'adapter aux générations qui arrivent avec des sonorités différentes. Ça a été le cas pour la Vieille Larroue. Il y avait un répertoire avant qui était très trad et aujourd'hui ça évolue énormément. Ça part dans tous les sens. Et l'épinette a peut-être raté ce coche, le fait de s'adapter à essayer de chercher des choses nouvelles.
On a la partition, donc le 5 ça correspond à la note,
ouais.
Le casque, l'instrument.
Ouais.
Le grand A c'est qu'on joue tous les bourdons, c'est le temps
ouais.
fort. Et donc le numéro, le chiffre, ça correspond au numéro de la case.
Ça c'est toi qui a
Ouais.
D'accord.
Et est-ce qu'il y avait...
Enfin ils étaient écrits dans une autre tonalité. Hein.
Ouais.
Donc il y a tout un tas de morceaux. Ouais. Ouais aussi, ouais, j'aime bien. Puis ça change du traditionnel.
Ouais.
Hein.
Et en tant que luthier, du coup, à ce moment-là, est-ce que toi, tu arrives à inventer des nouveaux modèles ou des nouvelles fonctionnalités à l'instrument pour le rendre plus sexy, pour le rendre de nouveau attractif, quoi?
Bah, ce qui peut être fait déjà, c'est oui, par rapport à son apparence, c'est essayer de faire des choses un petit peu. Alors il y avait l'idée de Louis Georgel d'avoir une deuxième caisse de résonance qui donnait plus de puissance. Ça faisait un instrument quand même un peu moins intimiste, on va dire, qui se fait pas non plus écraser par tout le monde. La sonorisation également. Essayer de faire une sonorisation qui change de ce qui se fait traditionnellement avec un piezo, mais peut-être essayer de faire des choses avec des micros magnétiques pour pouvoir dissocier la partie mélodique et la partie bourdon. Et après, il y a d'autres pistes également pour peut-être changer d'autres modes, pour passer de changer l'accordage des bourdons pour pouvoir plus facilement jouer du répertoire varié.
Je regarde les instruments qu'il y a derrière. Est-ce que ça, ce qu'il y a, c'est un instrument qui est complètement électrique? Et je vois la caisse de résonance est petite et ça me fait penser à l'équivalent de la guitare électrique par rapport à la guitare, mais ici pour le dulcimer, c'est ça?
Eh ben, c'est un dulcimer électrique. Je pense qu'il y a quand même des luthiers qui ont essayé d'en faire, mais celui-là est assez particulier parce qu'il a. Il a vraiment déjà un micro de guitare électrique et il a une forme qui permet de jouer sur les cuisses comme traditionnellement, mais également en bandoulière comme pour une guitare. Donc voilà, c'est un dulcimer électrique et donc avec un solid body, donc voilà comme pour les guitares électriques.
Innovation, on a créé ça pour sortir de la forme traditionnelle, puis électrique, donc ça ouvre beaucoup plus de perspectives instrumentales. On peut mettre des pédales à effet, on peut faire tout un tas de choses. C'est dans cette optique-là que cet instrument il a été créé. Hein. Donc ça, le design, il est peut-être choquant pour certains, Mais moi je suis très pour que la lutherie progresse au maximum. Parce que si on reste dans un carcan, l'instrument n'évolue plus et puis les gens ne s'intéressent plus à l'instrument. Hein. Faut le faire évoluer, hein. C'est comme la vielle. Hein.
De l'activité et donc épinette et dulcimer c'est quand même un marché de niche, on peut le dire, en France en tout cas, donc c'est pour ça que les vielles, je me suis lancé également dans les vielles et c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de demandes de réglage, de restauration, de fabrication, donc voilà, ça permet de développer l'activité d'une autre façon.
Et est-ce qu'il y a un marché peut-être étranger, par exemple vous parliez tout à l'heure des États-Unis? Les gens, c'est encore très populaire de dulcimer. Est-ce qu'il y a d'autres milieux, d'autres mondes folk où c'est des instruments populaires?
Dans
d'autres pays, ouais, ouais.
Ouais, en Allemagne, il y a un petit foyer de musiciens, de joueurs de dulcimer. Et en Italie, là, je crois qu'il y a un sage qui se fait au mois d'août de dulcimer.
Mais en Allemagne, tu dis, il y a encore un petit...
Ouais, il y a un petit foyer, il y a une vingtaine de personnes qui participent à des stages. Mais annuellement, hein, c'est pas...
alien doguna, zadez dion betenu. Jatin alien doguna, zadez dion betenu.
C'était le groupe Balogadjo avec un morceau qui s'intitule Cerclikos, qui est issu d'un traditionnel grec. Alors vous imaginez bien que le titre originel n'est peut-être pas Cerclikos.
Et vous imaginez bien la danse dont il s'agit avec le nom du morceau.
Voilà, il s'agit d'un cercle circassien, comme tout le monde aura reconnu. Donc Cerclikos, en fait, il est plutôt question du marché de Thessalonique et d'un tisserand qui parle à son tissu pour savoir qui pourra le porter. Et en fait, évidemment, son tissu lui répond que ça sera sa chair et tendre qui le portera. Voilà. Depuis 10 ans, donc Balogadjo sillonne la route des Balkans et puis des Balles tout court, hein, avec la joie qui leur est coutumière et qui est facilement contagieuse. J'ai notamment un souvenir mémorable de Paul Oliver en stage de musique d'ensemble qui nous communique avec une grande générosité.
C'était super.
Sa passion de la musique kurde. Voilà. Donc avec cette joie, de cette joie, naît un 7e album. Alors ils n'ont pas chômé en 10 ans, et l'album donc date de 2025, mais le printemps 2025, donc ça fait déjà un petit moment, quelques mois, bon on est un peu en retard, mais il est cette année, et il est super. Il s'intitule Le Poids de la Terre, il poursuit le travail du groupe de rencontres avec les musiques et chants traditionnels du monde en général, mais notamment à l'est et au sud de notre propre point de vue, et notamment beaucoup en Grèce et en Turquie, par exemple, et au Kurdistan.
Une identité de plus en plus affirmée au fur et à mesure des albums, j'ai l'impression.
Ouais, peut-être, ouais. Et on voit que le chant, il prend aussi une place un peu plus importante. Il faut noter d'ailleurs que chacun et chacune des membres du groupe, donc ils sont 5, chacun qui joue déjà en moyenne de 3 instruments, chante aussi. Voilà. Et puis, il y a quelques compos, mais les compos sont d'inspiration très balkanique aussi.
J'aime bien. Alors moi, l'écho du parquet, j'aime bien. Alors, ce que j'aime bien dans cette émission, c'est que ça met le feu. Mais alors là, ça met le feu au parquet. Hein. Alors là, vraiment, et puis j'aime bien.
Ben oui, c'est toujours l'écho du parquet.
Et Dordogne a sorti son 2e album. Il s'appelle La Duche et je voulais commencer cette chronique à son sujet en évoquant ce qu'en dit le site du collectif Pince-Oreille dont le groupe fait partie. Je cite. Après avoir passé les premières années de vie du groupe à quelques expérimentations autour du mat et prog rock, Dordogne a davantage trouvé son son dans un répertoire invitant à la danse en assumant plus ouvertement l'influence des musiques traditionnelles qui a réuni ses musiciens. Fin de citation.
Il n'y a qu'un pas, hein, de l'un à l'autre.
c'est très net. Quand on regarde le line-up, c'est-à-dire la composition du groupe, on comprend bien que c'est effectivement le bain des musiques trad qui les a réunis, puisqu'on trouve dans ce groupe le violoncelliste Colin Delzan, de l'équipe Bolsy Swing, etc. Le banjoiste Antoine Cognier, de Comrade, Super Parquet, etc. Et le deuxième banjoiste, on a beaucoup de groupes à deux instruments identiques aujourd'hui, Julien Cartonnet, de Topette, et de plusieurs projets ou disques personnels qui tournent autour de la musique du Morvan. Le disque a été enregistré au Gamounet directement chez les Braillots, et la jolie pochette a été réalisée par Noélie Nioulou, qui joue du violoncelle dans Sorgue et Garenne. Nous sommes bien dans notre monde et dans notre milieu. Mais musicalement, si ce deuxième album a trouvé son son et ses influences du côté des musiques traditionnelles, on se demande bien ce qu'était le premier. Et si on se dit, qu'on ne le connaît pas, que ça devait être un pur disque de death metal, je ne vois pas d'autre hypothèse. Parce que j'ai beau réécouter le disque, les influences trad, je les entends quand même très 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 légèrement. Et je me dis qu'en plus des bourrés du Centre France, les trois compères ont dû aussi beaucoup écouter Primus, John Zorn ou Mr. Bungle.
C'est des présuppositions, voilà. Sans aucun fondement.
Parce que là, on les sent nettement plus, les influences In Your Face bien barrées, qui ressortent tout au long de l'album, et on est très content de ça. Et c'est pour ça qu'on l'aime, cet album, et qu'on a adoré la prestation de Dordogne au son continu 2024. Nous allons donc finir cette émission et se dire à bientôt avec un énorme pas de côté musical, tout en restant dans notre univers humain. Avec
c'est
le morceau...
un groupe braillot, hein, c'est
sûr. Un groupe braillot, complètement. Avec le morceau Bourgnac, qui effectivement a quelques très vagues relentrades, très très ponctuellement, peut-être un petit peu au début, bon, à vous de juger, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est que ça déchire et que ça met le feu au parquet, peu importe la marque des allumettes.
Oh, allez, on se quitte sur cette fantastique...
L'écho du parquet, Dordogne, Bourgnac, à très bientôt.